Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette deuxième partie de ce colloque. Donc c'est la troisième table d'intervention et nous allons toujours parler de robotique et réalité virtuelle. Et cette fois, plutôt consacrée, en tout cas colorée, autour de la question de la clinique de l'adulte. Alors je me présente tout de même, je m'appelle Grégory Bonnet, je suis maître de conférence à l'Université de Caen, je suis chercheur en intelligence artificielle. Donc hors du domaine a priori qui nous concerne. Et je suis associé au laboratoire grec, donc, qui se trouve au nord de Caen. Et ce sont des questions qui m'intéressent aussi, parce que je travaille sur du suivi à domicile de patients, et donc les questions de suivi, un peu de robotique, un peu de réalité virtuelle m'intéressent. Et donc pour cette session, alors nous avons trois invités. En premier lieu, Noël Schepers, de l'hôpital Vincent Van Gogh de Charleroi, en Belgique, qui est psychologue clinicien et qui participe à l'unité de thérapie comportementale au Centre de réalité virtuelle. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Evelyne Klinger, qui est docteur HDR, chercheuse associée au laboratoire Handicap, Activité, Cognition et Santé de l'Université de Bordeaux. Elle est membre du comité directeur de l'Institut fédératif de recherche sur le handicap. Et nous devions recevoir M. Bernard Andrieux, qui malheureusement est bloqué à Paris pour des problèmes de train. Et Serge Tisseron, voilà, ici présent, a accepté au débotté de venir discuter du sujet robot et réalité virtuelle dans la clinique de l'adulte. Et nous l'en remercions. Du coup, avant juste de laisser la main aux intervenants, je vous propose, pour modérer un peu le temps de parole, de vous faire passer des petits mots, comme mon précédent collègue. C'est une technique qui marche bien. Et voilà. Donc, après 10 minutes, 5 minutes, quelque chose comme ça.
Bonjour, bon après-midi, bienvenue, merci pour l'invitation. Donc, ça va le son ? Alors, je suis belge une fois. Deux fois, c'est quand je fais des crises deux fois. Okay. Bon. Voilà, donc une introduction, réalité virtuelle en psychopathologie, il y a des choses qui ont déjà été évoquées ce matin, je vais les dire, les répéter ou les évoquer sous une autre forme, quelques éléments fondamentaux d'une expérience en réalité virtuelle. Je vais surtout ici parler de mon expérience de praticien au quotidien en réalité virtuelle dans une clinique psychiatrique. Donc je travaille à l'hôpital Vincent Van Gogh, où on prête une oreille attentive à vos difficultés. Donc je travaille dans l'unité de thérapie et de médecine comportementale au sein d'un service de psychiatrie au CHU de Charleroi, en Belgique. Cette unité est spécialisée dans les troubles, dans le traitement des troubles anxieux, depuis maintenant 1986, ça nous fait quelques fragments d'éternité. Et en 2012, on a créé un centre de réalité virtuelle pour les programmes thérapeutiques et pour les consultations. Il faut savoir que par les programmes thérapeutiques, nous bénéficions de ce qu'on appelle un hôpital de jour thérapeutique dans lequel les patients viennent passer toute une journée et au cours de cette journée, ils ont soit des entretiens individuels et aussi des exercices thérapeutiques, comportementaux et surtout d'exposition puisqu'on est dans les troubles anxieux. Voilà, la réalité virtuelle en psychopathologie, ça a déjà été évoqué ce matin. L'introduction a été faite au milieu des années 90. 90, ça c'est pour montrer que je suis bilingue. Les traitements qui utilisent surtout la thérapie par exposition, et elle a surtout été utilisée largement dans le traitement des troubles anxieux, au début pour les phobies spécifiques. Alors il faut savoir que vous le savez déjà, que les troubles anxieux touchent à peu près à 20% de la population sur toute la durée de vie. Donc ça veut dire qu'il y a du boulot. Elle a été testée sur les troubles obsessifs compulsifs, le stress post-traumatique, surtout par Stéphane Bouchard et d'autres auteurs, et les troubles des conduites alimentaires par Giuseppe Riva, toutes les addictions et la diminution du craving, le tabagisme. En schizophrénie aussi, maintenant, il y a des applications intéressantes qui se font, et aussi la thérapie par le traitement des hallucinations auditives avec les avatars. Alors, les éléments fondamentaux d'une expérience de réalité virtuelle, vous le savez, je vais les répéter, il faut quoi ? Il faut un environnement 3D géré par ordinateur, de l'interaction, la possibilité de naviguer dedans et d'interagir avec les événements, d'avoir accès au 6 degrés de liberté, haut, bas, gauche, droite, avant, arrière, et de l'immersion, c'est-à-dire avoir une immersion par rapport à l'environnement et être aussi isolé de l'environnement réel. Donc naviguer librement, la perception subjective d'être là pour avoir ce fameux sentiment de présence qui est nécessaire à l'expérience de réalité virtuelle. Le sentiment de présence, il est présent justement un peu dans d'autres situations. Quand vous lisez un livre, quand vous suivez un film, quand vous êtes passionné par quelque chose, vous oubliez le lieu où vous êtes pour être émotionnellement, parfois corporellement, présent à la situation que vous êtes en train de vivre pour le moment. Alors, le modèle simplifié des troubles anxieux, je vais le signaler. Donc, à chaque une situation déclenchante, si l'individu perçoit une menace, un danger, en quelques millisecondes, le centre des émotions, l'amygdale en l'occurrence, déclenche la réponse pour protéger l'organisme, soit une réponse de fuite, soit une réponse de combat, en 12 millisecondes. Les méchantes langues disent qu'en Belgique, c'est plus long. On a une étude comparative avec la Suisse. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc, cette situation déclenche une émotion, un sentiment anxieux, des pensées anxieuses avec des symptômes physiques qui vont engendrer parfois une interprétation catastrophique des symptômes et favoriser des comportements d'évitement, ce qui va renforcer la perception d'une menace et de danger. Donc, si on fait un peu raconter une histoire, imaginez que vous soyez d'origine très phobique des serpents, vous avez très peur des serpents. Vous vous baladez un jour dans une campagne en mois de février, quand il fait froid, sec. Vous vous baladez et vous êtes occupé par vos pensées habituelles qui vagabondent un peu comme ça. Et votre regard tombe quelque part là-bas devant sur un enroulement qui ressemble à... Et votre cerveau traite ça comme un serpent. Quelle va être votre réaction à ce moment-là ? Surprise, figement, et puis retour en arrière, et seulement après, vous allez pouvoir vous dire, oui, mais enfin, on est sous cette latitude-ci, il fait froid, il fait moins 5 degrés, il n'y a pas de serpent. Donc, nous sommes d'abord perception, sensation, émotion, et seulement après, capacité de réflexion qui va venir éventuellement moduler cette première impression. Perception, émotion, sensation, c'est le développement de la théorie du trouble anxieux. Donc, ça va favoriser un évitement. Alors, l'évitement, c'est évident, ça apporte un soulagement immédiat. Je ne suis plus en contact avec ce qui me fait peur, mais ça maintient une perception des conséquences négatives, une surestimation des possibilités de danger et une faible perception des capacités individuelles à faire face. Alors, le processus d'évitement, il est illustré ici. Vous avez en l'anxiété, qui peut monter jusqu'au maximum. Hein. Plus haut que haut, on ne sait pas faire déborder le verre, mais en général, l'anxiété est à son maximum. Il y a un vécu d'inconfort. Si je m'enfouis de la situation, il y a un vécu de soulagement, et ce soulagement immédiat apporté par la fuite, eh bien, renforce l'habitude d'évitement. Et au fur et à mesure, l'anticipation de la situation difficile se maintient, et la personne n'aura pas l'occasion de faire l'expérience qu'il est capable de voir et de vivre les choses autrement. Alors, en thérapie comportementale, il y a plusieurs stratégies d'intervention. Elles ne sont pas dans un ordre chronologique. Il y a des choses qui sont évidemment qu'il vaut mieux faire au début qu'à la fin. La toute première chose, c'est l'analyse fonctionnelle. C'est quoi l'analyse fonctionnelle ? Eh bien, c'est une sorte d'inventaire, un recueil de faits de ce qui se passe. Comment le trouble s'est-il installé, quels sont les antécédents, quelles sont les conséquences, comment cela se passe-t-il. Au cours de l'analyse fonctionnelle, on va bien sûr établir un lien thérapeutique privilégié, de bienveillance, de collaboration, individualiser le traitement, c'est vraiment fort important, faire par la suite de la psychoéducation, en quoi le trouble se manifeste-t-il, comment ça se passe, quelles sont les informations qu'on a là-dessus, faire de l'information, et toujours créer une relation thérapeutique de qualité. Une place importante est accordée à la restructuration cognitive, à l'identification des pensées, les pensées automatiques, l'inférence arbitraire, le saut aux conclusions et tout ce qui est plutôt identifié comme difficulté au niveau cognitif. Une des techniques les plus utilisées, ça va être bien sûr l'exposition à la situation anxiogène. D'autres techniques, hein, résolution de problèmes et aussi la prévention de la rechute. Voilà, en gros, ce sont les stratégies d'intervention TCC qui arrivent à tout moment. Il faut savoir aussi que l'analyse fonctionnelle, elle n'est jamais terminée. Elle se poursuit tout au long de la prise en charge par l'apport de nouveaux éléments par le patient et par la collaboration qui s'établit avec le praticien. Bon, l'exposition thérapeutique, en quoi est-ce que ça consiste? C'est très simple dans la conception. La mise en place demande du doigté, de la créativité, de l'originalité parfois, du bon sens et surtout de la progressivité. Donc lors de la première exposition, on a choisi la cible, on a choisi la hiérarchie, et bien l'anxiété va monter assez fort. Il y a aussi l'apprentissage par le patient de stratégies d'apaisement, des stratégies de respiration, d'apaisement, de modification des pensées, pour maintenir la personne dans la situation de l'exposition. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est que la progression, c'est un peu l'image de l'escalier. Assez haut pour progresser, assez bas pour ne pas se casser la figure. Donc y aller progressivement, de façon régulière et surtout bienveillante. Au fur et à mesure qu'on va répéter les expositions d'une même sorte, bien l'anxiété va monter moins haut, l'habituation va se faire plus rapidement et on va aboutir à l'extinction de la réponse anxieuse. Voilà. En général, l'araignée, ça fonctionne bien. Donc, l'exposition consiste à... Je vois qu'ils apprécient les araignées ici. Je vais donc laisser la diapositive pendant une bonne vingtaine de minutes. Et ça devrait vous laisser l'occasion de pouvoir constater que l'exposition, ça fonctionne. La difficulté ici, c'est que je n'ai pas respecté la progressivité ni la hiérarchie. L'exposition consiste donc à amener la personne à se confronter à ses peurs, confronter ses peurs, de corriger les associations dysfonctionnelles qu'il y a dans le cerveau. Donc, l'objectif n'est pas l'habituation, mais l'extinction pour pouvoir progressivement créer de nouvelles associations en dehors de la perception de danger avec la situation. Elle s'appelle Gertrude.
Elle est bien élevée.
Elle est bien élevée, oui. Alors, elle donne la bonne main, comme vous pouvez le constater. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous voyez ici un cerveau qui est équipé d'un visiocasque. Il y a le système limbique, le centre des émotions, et la zone préfrontale. Lorsqu'on présente un stimulus qui est en rapport avec la difficulté que rencontre le patient, désolé, hein, mais bon, c'est ce qu'on a de plus facile sous la main. Il y a un traitement automatique de la situation, savoir que pour la personne en difficulté, il faut voir la peur et la phobie en dehors de la logique. La peur et l'émotion n'ont pas de logique. Hein. Vous savez, pour quelqu'un qui a peur des araignées, par exemple, s'il voit à la télévision une araignée, même dans un film noir et blanc des années 30, avec un pianiste au fond de la salle qui fait la musique, il va changer de chaîne, il va changer de pièce, parce que la réponse anxieuse est tellement puissante qu'il ne pourra pas supporter. Quelqu'un qui a une autre phobie de la sortie de la conduite automobile, et bien rien qu'imaginer parfois aller en voiture, c'est suffisant pour... C'est trop difficile pour moi, non, j'irai pas. Et effectivement, moins j'y vais, moins j'ai la preuve que je suis capable d'y aller. Donc le traitement automatique de la menace, ça fonctionne comme si c'était vrai. Le cerveau fonctionne comme si c'était vrai. Et si on maintient la situation et si le stimulus n'est pas trop puissant au niveau du déclenchement émotionnel, il y a une amélioration, une habituation et une perception du sentiment d'efficacité de la personne. Donc l'exposition, ce n'est pas uniquement se mettre en situation et laisser le temps passer. Il y a tout un travail d'apaisement physiologique et de modification du discours intérieur. Donc le but, dépasser les peurs, diminuer et stopper les comportements d'évitement, développer de nouvelles associations entre les stimuli et l'absence de menaces, diminuer la peur perçue et augmenter le sentiment d'auto-efficacité. Alors, l'exposition in vivo présente quand même certaines difficultés. D'abord, la disponibilité du matériel et des situations anxiogènes. Ce n'est pas toujours facile d'avoir tout ce qu'il faut pour répondre aux difficultés d'un patient. S'il est facile de dresser un chien à aboyer, c'est moins facile de dresser des araignées à se déplacer quand on veut qu'elles le fassent. À une autre partie de ma carrière, j'ai élevé des araignées pour les amener face aux patients, en les ayant bien sûr prévenus de ce qu'on allait faire avec toute une série de précautions. La disponibilité du thérapeute, si on doit faire des déplacements en voiture, en avion, d'abord ça coûte cher. Ensuite, on n'est pas sûr que l'avion ne va pas se crasher. Non, ça ne va pas. Difficulté des variables parasites, notamment l'aspect social. Quand on doit faire un exercice d'exposition, il y a une difficulté pour les patients à regarder, à voir le regard des autres, de cette personne. Si ça fait 3 ou 4 fois qu'elle passe devant la même caisse de grand magasin, qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Il est en train de préparer un sale coup, il prépare un hold-up, voilà, qu'est-ce que c'est que ce genre de choses? Donc ce sont toutes des variables parasites. Parfois, on a des difficultés à graduer les expositions. Je vous donne un exemple. À un certain moment, je m'occupais surtout de personnes qui avaient été victimes de hold-up ou d'agressions dans des banques. Et donc, parmi les exercices d'exposition à faire, il y avait « oser repasser dans le quartier où se tenait la banque ou le bureau de poste ». Jusque-là, ça va, sauf qu'il est arrivé que c'était un mercredi après-midi. Un mercredi après-midi, en Belgique, c'est congé. Et les gamins du quartier faisaient sauter des pétards. Donc c'est moins bon pour la progression et la hiérarchie d'exposition. Donc c'est une variable parasite. Et il y a aussi la peur elle-même de l'exposition. Quand on présente l'approche cognitive comportementale, les personnes ont juste ce qui leur est expliqué comme information de vulgarisation, c'est « on va te remettre dans la situation où ce que c'est que tu as eu peur ». Ça, c'est l'accent belge. Hein. Alors, illustration clinique pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Il s'agit d'un cas de trouble obsessif compulsif de contamination. C'est un patient âgé de 45 ans. Il a des TOC, un trouble obsessif compulsif de contamination associé à des compulsions de comportement de lavage. Le TOC, la pensée augmente l'anxiété et très souvent la compulsion a comme fonction de faire baisser l'anxiété. Donc il a un évitement de toute situation, de pensée, qui est en rapport avec la thématique des germes, particulièrement l'urine et les matières fécales. La stratégie thérapeutique, c'est l'exposition avec prévention de réponse. Prévention de réponse, c'est empêcher d'émettre la réponse de compulsion qui va faire baisser l'anxiété. Méthodologie, avant, c'est assez classique. Hein. Explication, on administre des échelles de propension à l'immersion, acquisition de stratégies d'apaisement, respiration, et surtout augmenter dans ce cas-ci les compétences de restructuration cognitive, des auto-instructions de Menkenbaum notamment. L'étape 1, on va tester un environnement neutre. Il faut savoir qu'un environnement neutre pour un patient peut être un environnement déclenchant pour un autre. Donc l'environnement neutre, il n'existe pas d'environnement neutre spécifique, on le choisit avec le patient. Et bien sûr, la présence, échelle de présence et de cybermalaise. On établit la hiérarchie d'exposition. Et bien sûr, on fait une exposition graduée avec division en zone de progression. C'est quoi la division en zone de progression? La question, c'est aujourd'hui, au cours de cet exercice, vous aimeriez être capable de faire quoi et d'aller jusqu'où? Si on est dans un environnement physique de déplacement, des toilettes par exemple, eh bien on divise zone verte, ok, pas de problème, zone orange, j'aime pas trop ça, zone rouge, j'irai pas. Et progressivement, on va jouer sur les frontières de ces trois zones-là. Alors, ici, il n'y a pas de son, mais c'est des belles toilettes propres. Celles-ci sont propres. Jusque-là, ça va. C'est pour vous montrer les environnements. Ce sont des environnements qui ont été développés par Lukoch avec Stéphane Bouchard, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je vous signale. Ça, elles sont propres. On va arrêter, on va aller aux suivantes. Vous avez tous vu un urinoir dans votre vie, hein? Ok. Alors, niveau de contamination 3, même chez les dames, c'est dégueulasse. Alors, ce que vous voyez là, la poubelle a été gentiment et de façon très humoristique rebaptisée R2-D2 par les patients eux-mêmes. Je trouve que c'est pas mal comme démarche. L'humour peut être utile pour pouvoir aborder les situations. Ça, c'est le niveau 3, hein. Et en plus, on peut aussi ajouter des stimuli olfactifs. Je la sentais venir. On va passer chez les hommes. C'est pas beaucoup mieux. Je vous prie d'apprécier la qualité des graffitis. J'ai été trop vite. Je vais revenir en arrière. Oups, c'est là. Ouais. C'est la totale. Donc, dans l'environnement, il est prévu que le vase déborde et on voit le cigare qui flotte. Hein. On va dire les choses telles qu'elles sont. Donc, il n'y a pas le son, malheureusement. Donc ici, le patient est en train de progresser. Il va aller jusqu'au bout. À un certain moment, il dit, il se tient comme ça. Donc, il est vraiment immergé dans la situation, à tel point qu'il a peur de toucher les murs qui n'existent pas. Hein. Et donc, il va aller jusqu'au fond. Il dit, voilà, j'ai l'impression que mes chaussures sont contaminées par l'urine. Et il reste dans la situation. Il dit à un certain moment, je suis tellement contaminé qu'en sortant d'ici, j'aurais envie d'aller dans la pelouse et m'essuyer les chaussures. Voilà. Mais on va rester dans la situation. Il dit lui-même ce que je ne ferai pas. Donc tout ce qu'on fait ici en situation de réalité virtuelle, ça dure à peu près 20 minutes, c'est repris dans le décours complet de la journée parce que l'exercice d'exposition se maintient toute la journée. Encore une fois, dans ce genre de situation, il ne s'agit pas d'apprendre à aller se brosser les dents dans l'eau du bol. Hein. Ça n'a aucun sens, ce bazar-là. Hein. Donc, mais on est au niveau de le fait de pouvoir constater que la menace ou le danger ne se réalise pas. Les avantages de la réalité virtuelle, vous les connaissez. Ben, économie de déplacement, surtout au début, il ne faut pas aller à l'extérieur. On a un environnement contrôlé. Il n'y a aucun incident de sensibilisation imprévisible. Aucun incident, pas tout à fait, parce que parfois, les patients peuvent avoir une lecture de l'environnement qui nous a échappé, parce que nous n'avons pas ce problème-là. Ils peuvent percevoir des éléments de l'environnement virtuel qui les font réagir et nous pas. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir renégocier ce genre de situation. Ça contourne les habiletés de la visualisation. Il y a bien sûr la confidentialité du bureau. On peut graduer plus facilement les environnements et les expositions. On peut répéter la situation autant de fois que c'est nécessaire, surtout lorsqu'il y a des déplacements. Faire plusieurs atterrissages et décollages en séance, c'est quand même un avantage. Bien sûr, une meilleure motivation, on gagne du temps et le coût. Il y a un côté éthique. Pourquoi ? Parce que nous avons à l'hôpital des collègues qui ont une spécialisation assez particulière, c'est l'évaluation et la prise en charge des paraphilies. Et donc, il y a parfois des exercices à faire avec des jeunes enfants. Le fait de pouvoir avoir des avatars, ça permet de pouvoir quand même faire des exercices à ce moment-là, avec cette population-là. Et bien sûr, l'efficacité est comparable à la TCC classique, supérieure ou comparable à la TCC classique. Boule de cristal, quel est l'avenir de la réalité virtuelle ? Ben, augmentation des praticiens intéressés par la technique. Ça, c'est vraiment, ça se manifeste de façon assez régulière. Il y a une combinaison croissante de plusieurs technologies, le biofeedback, surtout aussi le tracking visuel qui va nous apporter pas mal d'informations, réduction des coûts, bien sûr, plus grande disponibilité d'environnement, plus d'interactivité, réalité virtuelle, réalité augmentée, avec des applications gratuites comme Spiderphobia, qui fonctionne très bien, encore une fois, pour les phobiques des araignées, dont la demoiselle là-bas. Implication de plusieurs modalités sensorielles, les odeurs, le toucher. Alors bien sûr, les consoles de future génération, ben, notamment les smartphones, vont favoriser de continuer les exercices thérapeutiques à domicile en étant prudent de les avoir préparés pour ne pas soit perdre du temps, soit vouloir aller trop vite et se sensibiliser. Je parle des patients qui ont parfois envie d'aller mieux très vite. Bien sûr, la facilité de création d'environnements individualisés, avec, ça a été évoqué ce matin, avec UDK, Unity et Twinmotion, qui a un environnement qui permet en quelques heures d'avoir une carte suffisamment détaillée pour faire des environnements. Développement d'environnement à partir de photos, vidéos 360, avec possibilité d'interaction dans les photos et vidéos. Et on amène l'univers du patient dans le bureau du praticien. Ça marche surtout, c'est surtout efficace pour les gens qui ont un trouble obsessif compulsif. Ils viennent avec une photo 360 de chez eux et on travaille dans le bureau et puis ils retournent chez eux. Il y a des dérives rentabilistes. C'est-à-dire que le risque serait qu'on équipe tout le monde d'un smartphone qui est, comme on l'a évoqué ce matin, une voix à l'intérieur du casque qui vous dit ce qu'il doit faire, mais une vraie voix ou une fausse voix. Et vous voyez que dans l'assistance, il y a quelqu'un qui laisse son casque et qui demande « Est-ce qu'il y a quand même un psy pour venir m'aider ?» Je vous invite à aller voir la technologie complémentaire. C'est le site vrthérapie-charleroi.be où vous pouvez avoir accès à des environnements gratuits sur plusieurs thèmes, notamment araignée, encore une fois, agoraphobie, claustrophobie, acrophobie, et la progression des exercices, en tout cas des photos, est notre logique, mais c'est libre au praticien de l'adapter à sa pratique. Conclusion, la réalité virtuelle permet d'enrichir le traitement, de l'individualiser, de faciliter la collaboration au patient. Il y a une dimension ludique, et les possibilités de développement touchent tous les domaines de la psychologie. Bien sûr, on l'a dit ce matin, l'outil ne remplace pas le praticien, mais vient l'assister. Et la réalité virtuelle ne modifie pas la nature de la thérapie comportementale, ne remplace pas la compétence ni la créativité du thérapeute. Si vous êtes bon en thérapie, vous serez bon avec la réalité virtuelle. Si vous n'êtes pas bon en thérapie, vous ne serez pas meilleur avec la réalité virtuelle.
Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième présentation. Et en attendant, peut-être juste que de manière un peu provocatrice, en tant que chercheur en IA, une question que je me pose, c'est peut-on générer automatiquement les niveaux d'exposition dont vous parliez? Vous disiez que c'était assez compliqué de les fixer manuellement. Et un système d'aide à la décision pour, en fonction des réactions du patient et de son histoire, pour avoir du sens peut-être pour votre travail. Merci. La parole est à vous.
Bonjour à tous. Je tenais moi aussi à remercier les organisateurs de la conférence de m'avoir invité. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de revenir à Caen, parce que c'est à Caen que je suis tombée dans la réalité virtuelle, dans la fin des années 90, et c'était au Grec. Donc je rebondis sur notre président de séance. Alors moi, je vais vous parler du champ de la rééducation cognitive. Et sachez que ma formation initiale, moi, est ingénieur. Et j'ai toujours mis mes compétences au service du monde de la santé. Mais depuis, disons, une vingtaine d'années, je me suis consacrée au champ de la rééducation cognitive. Et par exemple, mon habilitation à diriger des recherches est en sciences de la cognition, par exemple. Donc on peut être ingénieur et finalement être habilité à diriger des recherches dans le domaine de la cognition. Mes travaux initiaux, d'ailleurs, pour information, avec le Grec, étaient dans le contexte de la phobie sociale, donc du sujet que l'on vient d'aborder, les troubles anxieux. Il s'agissait d'un projet européen. Alors, je tenais aussi à souligner que, en tant qu'ingénieur, les travaux que j'ai menés sont toujours partis du besoin exprimé. Et ceci à la fois grâce finalement aux thérapeutes avec lesquels j'ai travaillé, mais aussi à des structures qui permettent de travailler dans la transdisciplinarité, telles que l'Institut fédératif de recherche sur le handicap ou l'International Society for Virtual Rehabilitation, qui sont des organismes où les chercheurs se retrouvent sur ces thématiques-là. Alors, je vais vous parler de la rééducation après traumatisme du système nerveux central. La rééducation est un processus long, ardu, et les thérapeutes, leur objectif va être de proposer aux patients des interventions qui vont être efficaces, pertinentes, motivantes, pour que ces personnes puissent retrouver des capacités et retrouver une certaine autonomie dans leurs activités de vie quotidienne. Donc vous allez voir, ma présentation va beaucoup s'appuyer sur ces activités de vie quotidienne. Et en rééducation cognitive, l'objectif va être d'accroître, d'améliorer la capacité des personnes à traiter et utiliser l'information entrante pour permettre un fonctionnement accru dans la vie quotidienne. Alors, c'est une définition qui vient du monde de la rééducation, mais en tant qu'ingénieur, elle me convient aussi parce qu'il y a ce terme information, et vous verrez que la réalité virtuelle, en fait, on crée de l'information et on manipule de l'information dans des objectifs thérapeutiques. Donc, on va s'intéresser avec la réalité virtuelle à ce qu'on appelle les environnements virtuels fonctionnels qui, a priori, vont permettre de pallier les limites des approches traditionnelles, enfin, telles qu'elles sont décrites dans la littérature scientifique. Alors, je ne pouvais pas parler de ce sujet sans évoquer la personne qui a été la première à développer des travaux dans ce domaine. Il s'agit de Albert Rizzo, dit Skip Rizzo. Et vous voyez que déjà, c'était en 97, il publiait déjà un état de l'art de la rééducation cognitive via la réalité virtuelle, en identifiant les limites pourquoi c'était intéressant, et notamment parce que la réalité virtuelle allait apporter plus d'objectivité, de sensibilité, et allait permettre à l'humain d'être acteur dans des situations de vie quotidienne simulées. Alors, on l'a déjà dit, hein, donc des conférences sont nées également à ce même moment, hein, et tous les champs d'application se sont développés en même temps. Aujourd'hui, on ne traite pas du champ moteur, mais vous avez aussi des travaux dans le champ moteur. Alors, Skip Rizzo a grandement ouvert ce champ, notamment dans le domaine de la cognition, avec cette fameuse classe virtuelle qui permet de mesurer les capacités d'attention des enfants. Il a travaillé sur les troubles de l'attention des enfants. Et au travers de cette application, on voit bien tous les éléments de ces expériences virtuelles. Moi, j'aime mieux le mot expérience virtuelle que réalité virtuelle. En fait, l'humain est acteur dans ces univers, et donc on a déjà vu, je remercie tous les présentateurs précédents d'avoir introduit toutes les notions d'immersion, d'interaction, etc. Ça me permet d'aller plus vite. Ce qui est intéressant dans ces univers, c'est qu'on est capable, via le système et via des capteurs autres également, d'enregistrer tout ce qui se passe au sein d'une séance, et ainsi de mesurer l'activité des personnes. Donc ici, c'est matérialisé par des graphes que vous voyez et qui vont être analysés et vont permettre de définir, par exemple, des profils de patients. Mais aussi, étant donné qu'on a enregistré toute l'activité des personnes, eh bien, on est capable de rejouer et, par exemple, d'objectiver des difficultés. Cette base informatique permet aussi une documentation de l'activité qui va être très utile pour les thérapeutes et notamment pour assurer le suivi des patients. Alors, on a vu que l'intérêt aussi des situations virtuelles était le soutien à la motivation. Donc, je rebondis sur ce sujet-là. Et on verra plus tard aussi comment manipuler l'information délivrée permet de mettre en œuvre des paradigmes de rééducation. Alors, le domaine a démarré, vous voyez, dans les années 95, avec pas mal de tâtonnements, avec des développements d'applications, avec des réussites, avec des échecs. Vous avez des environnements qui ont été développés et vous ne voyez aucune publication scientifique avec ces outils-là. Petit à petit, les chercheurs ont identifié la nécessité de mettre en œuvre des recherches, de consolider les travaux, et des hypothèses ont été élaborées. Et notamment, il est reconnu que la réalité virtuelle permet de simuler des activités de vie quotidienne qui vont avoir un sens à la fois pour les patients et pour les thérapeutes, qu'on va pouvoir développer des méthodes variées de rééducation, qu'on va pouvoir s'adapter aux besoins, s'adapter aux capacités des personnes, et notamment aux capacités résiduelles des personnes, et qu'on va pouvoir explorer l'activité d'une manière multi-paramétrique. Il a aussi été évoqué ce matin la question du transfert vers le monde réel, d'acquis vers le monde réel. C'est vraiment un challenge, et dans certains domaines, il est réussi. Dans d'autres domaines, il y a encore beaucoup de travaux, de recherches à mener pour que ce soit vraiment reconnu. Alors, ce qui se passe aussi dans ce domaine-là, pourquoi est-ce que le transfert d'acquis, par exemple, vers le monde réel n'est pas encore un un champ sur lequel nous avons vraiment des résultats définitifs, c'est qu'il manque quand même dans ce domaine beaucoup d'essais cliniques avec des corpus de population suffisants pour que les analyses statistiques soient valides. C'est vraiment, là on est, comme le disait Pascal, dans un état de l'art autour de la réalité virtuelle, et on voit qu'à chaque fois on est dans des effectifs très très limités. Alors depuis 1995, donc, les activités simulées, alors je vais me placer dans le champ de la médecine physique et de réadaptation, c'est le champ avec lequel je travaille majoritairement maintenant, donc vont par exemple être dédiées à des fonctions cognitives. Donc vous allez avoir des chercheurs ou des thérapeutes qui vont vouloir aller explorer les fonctions. Et puis d'autres thérapeutes, disons par exemple les ergothérapeutes, qui vont plutôt s'intéresser aux activités de vie quotidienne simulées, où ils vont aller rechercher le fonctionnement global des patients. Et en fait, toutes ces techniques peuvent être mélangées selon les thérapeutes, selon les moments de la rééducation, selon les patients également. Pour ma part, moi j'ai travaillé majoritairement dans le contexte des fonctions exécutives, c'est-à-dire ces fonctions qui vont permettre d'évoluer correctement dans des activités complexes dirigées vers un but, ou bien qui vont nous permettre d'affronter des situations nouvelles. Ces fonctions qui ont diverses composantes, dont une d'entre elles est la planification, dont je vais parler par la suite. Alors, je vais m'appuyer maintenant sur le travail que j'ai mené dans ce domaine, et ce travail dans le contexte des fonctions exécutives s'appuie sur la littérature qui montre que pour être efficace dans l'évaluation et dans le traitement des fonctions exécutives, il faut placer le patient dans des situations écologiques complexes qui représentent des activités de la vie quotidienne. Donc, on se situe dans ce domaine. Et nous avons développé, avec le CHU de Caen, et à l'époque, c'était la neurologue Rosemarie Marié, un outil, un paradigme qui s'apparente à une tâche de course, donc dont le patient a une série d'actions. Et en réalisant cette série d'actions, ça nous permet d'analyser ses choix stratégiques et donc ses capacités de planification. Donc on se situe dans un univers virtuel qui est un supermarché virtuel, dans lequel le patient va évoluer je ne sais pas si ma vidéo se met en route. Voilà, dans lequel le patient va évoluer avec différents outils d'immersion et d'interaction. Nous n'utilisons pas les casques, et c'est une volonté des thérapeutes, parce que les casques peuvent être un frein finalement, ou une difficulté pour les patients, pour ce type de patient. Le patient a besoin d'être vraiment très près du thérapeute qui l'accompagne dans la situation. Donc avec les thérapeutes, lorsque nous construisons de tels outils, nous nous intéressons aux indicateurs de la performance qu'ils souhaitent élaborer à partir de l'expérience. Donc ici, sur la diapositive, vous voyez les indicateurs que nous avons définis. Nous pouvons aussi paramétrer les exercices au vu d'une liste de courses, avec des exercices qui vont avoir des objectifs cognitifs très variés, définis par les thérapeutes. On peut rejouer aussi les séances, c'est ce que vous montre la vision de dessus du supermarché et de trajectoire. Et bien sûr, tout ceci peut être utilisé pour évaluer des capacités, s'entraîner, travailler des difficultés, hein, et développer aussi des capacités. Donc dans cette démarche, donc nous avons mené des travaux dans cette démarche, mais je vous expliquais aussi que la réalité virtuelle nous permet de manipuler l'information. Et donc, à la demande des thérapeutes, nous avons introduit cette notion de stimuli logiciel additionnel. En fait, c'est une information qui n'est pas nécessaire à la tâche, mais dont on voudrait examiner l'impact dans l'expérience virtuelle. Alors, nous avons ce qu'on appelle des stimuli contextuels, c'est-à-dire qui vont être liés à la tâche, et des stimuli non contextuels qui vont venir ici pour perturber les personnes. Alors, avec ces thérapeutes, nous nous situons dans une démarche qui part de leurs besoins d'outils de rééducation, Et notre objectif a été d'aller jusqu'à l'élaboration de ces outils et faire en sorte qu'ils soient, entre guillemets, achetables, hein, quelque part. Donc, ces outils, quels qu'ils soient en réalité virtuelle, pour pouvoir être utilisés en thérapie, eh bien, il faut qu'ils vivent une sorte de cycle vertueux dans lequel, au départ, on va aller examiner des questions de tolérance, de faisabilité, acceptation. Quand je parle de tolérance, par exemple, on utilise de la réalité virtuelle. On a déjà entendu que la réalité virtuelle pouvait créer des cybermalaises. Donc, il faut éliminer tous ces aspects-là pour pouvoir être au plus près de... Enfin, pour être certain que la situation va être confortable pour le patient. Après, les outils sont développés dans des objectifs thérapeutiques. Il faut aller regarder si vraiment les outils remplissent ces objectifs thérapeutiques. Et puis enfin, on veut amener les personnes vers leur vie quotidienne. Donc, est-ce que ces outils permettent d'aller vers la vie quotidienne ? Donc, nous avons mené des travaux avec beaucoup d'équipes, beaucoup de populations de patients et dans différents pays. Et je vais revenir sur quelques applications, quelques travaux pour juste vous faire une petite description de ce chemin parcouru. Donc ici à Caen, nous étions dans le contexte de la maladie de Parkinson et notre objectif, c'était d'évaluer la planification de l'action chez les patients parkinsoniens. Donc dans les études que nous avons menées ici, eh bien, nous avons déjà pu valider que cette technologie pouvait être utilisée par des personnes âgées, que le paradigme mis en place permettait d'identifier des difficultés de planification et de différencier entre des personnes âgées saines et des personnes âgées ayant la maladie de Parkinson. Nous avons aussi, bien sûr, à chaque fois, on utilise les outils classiques d'évaluation neuropsychologique et nous avons pu montrer aussi une sensibilité meilleure de ce type d'outils par rapport aux outils traditionnels. Alors, les travaux ont été très vite... une équipe israélienne s'est très vite intéressée aux travaux menés avec cet outil. Et donc, ce qui pose la question aussi de l'évolution de la langue, de l'accessibilité du contenu par les patients, d'où le passage à l'hébreu, etc. Et donc, avec ces équipes, nous avons travaillé sur de nombreuses populations, notamment après AVC, avec des troubles cognitifs légers, avec schizophrénie. Et on a pu montrer des profils de patients qu'il y avait selon les indicateurs de performance dans la tâche, eh bien, on était capable de discriminer avec différents types de populations. Alors enfin, pour aborder la question de la validité écologique, eh bien cette fois-ci, c'était avec une équipe du Québec, de l'Université à Trois-Rivières, que nous avons travaillé ce sujet. Les patients schizophrènes réalisaient une tâche de course dans le supermarché virtuel, une tâche de course dans la vie réelle, et ces deux tâches de course étaient évaluées avec un même outil, qui s'appelle le Perceive, Recall, Plan and Perform. Et l'étude a montré que lorsque des difficultés étaient présentes dans la réalité virtuelle, elles étaient également présentes dans la réalité. Donc, ça a un certain caractère prédictif de ce qui se passe dans la vie réelle. Et puis, dans le contexte d'autres travaux, notamment avec Lyon autour de l'héminégligence, nous avons des travaux qui ont montré que, par exemple, dans le cas de l'héminégligence, l'adaptation prismatique permettait d'améliorer la capacité des personnes à évoluer dans des systèmes virtuels et à se représenter l'environnement virtuel. Et enfin, dans le contexte de la cognition spatiale, nous avons exploré en quoi les stimuli auditifs qui étaient apportés pouvaient être un gain pour les personnes qui expérimentaient dans l'univers virtuel. Et nous avons montré que c'était les personnes qui avaient des déficits qui avaient un gain le plus grand, puisque les personnes saines n'avaient pas besoin de ces stimuli. Donc, fort de tout cela, nous avons fait évoluer notre supermarché et avec nos partenaires habituels. Et nous sommes en voie de l'industrialisation de ce supermarché. Alors, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que pendant toutes ces années, eh bien, il y a différentes applications se sont développées. Donc, il y a eu le continuum des technologies, mais il y a aussi le continuum des applications. Et ces applications, elles se sont développées avec des usages, soit des conditions immersives devant un ordinateur, devant un écran, mais aussi vers des visiocasques, hein, avec l'exploration de diverses fonctions, diverses pathologies, avec divers objectifs de rééducation. Alors pourquoi le monde de la rééducation s'intéresse-t-il à cette simulation de la vie ordinaire ? Parce que ça leur permet de continuer dans leur approche de vision globale, contextualisée, fondée sur l'activité. La réalité virtuelle permet de poursuivre cette approche. Et par ailleurs, on peut ajouter du contrôle à l'environnement, on peut lever des barrières, on peut faciliter les actions, graduer finalement, comme dans les psychothérapies, et se mettre au niveau des patients et les faire progresser. Enfin, dans ce champ, il subsiste la nécessité de validation scientifique. C'est vraiment un besoin toujours criant, hein. Et d'autre part, si on veut permettre l'accès aux outils, eh bien, il faut aussi réussir à entraîner plus d'industriels dans ces démarches. C'est aussi un défi. Alors, en guise de perspective, autre défi, c'est intégrer ces technologies dans le raisonnement clinique. Les thérapeutes avec lesquels, qui sont motivés, avec lesquels nous travaillons, savent le faire. Et ils ont aussi un rôle, finalement, de formation, hein, vers les autres thérapeutes qui, eux, sont plus novices, hein. On voit que ces outils vont pénétrer les usages et on va jusqu'au domicile, hein, dans les perspectives. Mais tout ceci doit être encadré par la réglementation. Et notamment, à l'heure actuelle, on va vers la réglementation des dispositifs médicaux. On est aussi dans notre univers très favorable à la diffusion des expériences, des pratiques aux communautés d'usagers pour partager, hein, partager. Et là encore, je rebondis sur ce qui a été dit, la réalité virtuelle n'est qu'une médiation. Le thérapeute est bien sûr important aux côtés des patients, et notamment pour guider la façon dont les outils vont être utilisés. Et on voit que ces outils se démocratisent. On entend parler depuis 2 ou 3 ans, réalité virtuelle, c'est systématiquement les casques. Attention, un casque n'est qu'un dispositif. Sans le contenu, il n'y a rien. Hein. Donc le contenu dans le casque est extrêmement important. Et non seulement ça, un casque, c'est quelque chose qui modifie vos perceptions. Donc, non seulement le contenu va avoir un impact sur le patient, mais le fait de porter un casque, personnellement, moi, je suis très mal à l'aise avec les casques. Je peux très vite être malade dans un univers virtuel. Et donc, il faut avoir des propositions qui ne soient pas systématiquement sous forme de casque. Il faut le casque, OK, mais si la personne ne supporte pas, il faut pouvoir proposer aussi une vision sur écran où la personne sera certainement en meilleure situation. Et je souligne aussi ce que j'appelle les mésusages, c'est-à-dire ce que tu as appelé, je ne sais plus comment tu as appelé ça tout à l'heure. En fait, ce n'est pas parce que la technologie existe que n'importe quel thérapeute peut l'utiliser et va être bon pour l'utiliser. Il faut des connaissances, il faut peut-être pas une formation, mais en tout cas des connaissances, une bonne pratique. Donc il y a de nombreuses questions éthiques. Je pourrais aussi évoquer par exemple les questions éthiques autour de la violence. Il faut savoir aussi que la réalité virtuelle, alors nous on va l'utiliser pour avoir un impact sur la santé, une récupération de capacité, mais ça a aussi un impact, ça peut avoir un impact sur la santé en termes de désagréments. Vous pouvez avoir des symptômes, des effets néfastes de la réalité virtuelle pendant une séance, et cela peut durer 6 mois. Hein, ça existe. On est en train d'étudier ces questions-là, et il y a des. Donc, il faut être prudent. Et en 2020, je pense qu'il y aura un certain nombre de recommandations qui apparaîtront et qui permettront de mieux cadrer tous ces usages. Voilà. Je vous remercie.
Merci. Eh bien, avant de laisser la parole à Serge Tisseron, peut-être une petite réflexion. C'est vrai que ça me fait beaucoup penser à tout ce qui se fait dans le domaine des serious games en informatique. Hein. Il y a un lien qui est évident, avec toujours effectivement le risque que n'importe quel charlatan s'empare de ce genre de technique et parer d'un vernis de scientificité, puisse vendre des solutions thérapeutiques. Et ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Merci.
Je vous en prie. Bien, merci aux organisateurs de m'avoir permis d'intervenir maintenant, puisque Bernard Andrieux n'est pas là. Alors, beaucoup de choses vous ont déjà été dites, J'ai sélectionné quelques slides d'un PowerPoint, en fait, beaucoup plus long, en essayant de centrer plus sur l'aspect psychologique et l'aspect social. Evelyne vous a dit que des préconisations allaient être faites dans le domaine éthique au cours de l'année 2020, et effectivement, elle ne vous l'a pas dit, mais Pascal Piolino, Evelyne et moi-même faisons partie de la commission que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a mis en place pour faire des propositions éthiques dans le domaine de la réalité virtuelle. Donc, je vais peut-être passer un peu vite sur certains slides et rester un peu plus sur d'autres. Voilà, donc, déjà, on n'a pas parlé de réalité augmentée à aucun moment. Donc, je pense que c'est quand même important que vous partiez d'ici en ayant bien une représentation claire de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. La réalité augmentée, vous voyez, un smartphone, voilà, on a des projections sur l'image, des insertions sur l'image de différents types d'espaces que l'on peut trouver dans une rue. Donc, c'est la superposition qui nécessite évidemment de regarder à travers un écran, des lunettes, un viseur. Et dans l'état actuel des choses, beaucoup utilisé dans la formation professionnelle. La réalité virtuelle, on vous l'a bien définie, simulation informatique, immersive, interactive, concerne des environnements réels ou imaginaires. L'important, c'est de la penser en termes de substitution. Alors cette substitution explique le titre que j'ai donné pour comprendre le monde ou pour le remplacer. Alors, je vais vous rappeler en quelques mots quelque chose que j'évoquais ce matin, qui est la question de savoir pourquoi l'être humain, finalement, a-t-il passé une bonne partie de son temps, depuis les origines de l'humanité, à inventer des dispositifs d'image. Comme je vous l'évoquais, c'est parce que l'homme fabrique sans arrêt des images mentales, et je pense qu'avec cette vision d'un bébé endormi, vous pourrez mémoriser plus facilement ce que je suis en train de vous dire. Donc, on entre dans nos images intérieures, on s'y promène, on les transforme, et on tente de leur donner un sens partagé, comme en témoigne les innombrables clés des songes. Alors, l'être humain ne s'est pas contenté d'avoir des images mentales, il a toujours voulu créer à l'extérieur de lui des images avec lesquelles il est la même relation qu'avec ses images intérieures, pouvoir y entrer, c'est ce qu'on appelle maintenant l'immersion, pouvoir les transformer, pouvoir leur donner un sens partagé, mais en même temps pouvoir en sortir à volonté, c'est-à-dire être alternativement dedans et devant. Et cette démarche, être dans les images, être devant les images, est ce qui est vraiment fondateur de la relation que l'être humain entretient avec les images qu'il fabrique, mettre un casque, pouvoir l'enlever, ça a été évoqué plusieurs fois, ceux qui ne le supportent pas, utiliser l'écran dans lequel on peut à volonté s'immerger, on le sait bien, comme au cinéma, ou prendre du recul en se disant tout d'un coup, mais pourquoi je suis tellement bouleversé, ce n'est qu'un acteur, ce n'est que du ketchup, ce n'est pas du vrai sang. Ce n'est pas des vraies explosions, c'est des procédés numériques. Alors tout ça vous paraît peut-être banal, mais je l'ai écrit en 1995 dans un livre qui s'appelle « Psychanalyse de l'image », donc il y a presque 25 ans. Et donc cette capacité d'immersion, elle est à l'origine de la création d'un grand nombre de stratégies d'image, la perspective, le trompe-l'œil, les panoramas, la photographie en relief, etc. Mais en revanche, la capacité de transformation des images, elle n'est apparue sur une large échelle, parce qu'avant les peintres transformaient leurs images, et même parfois certains transformaient leurs tableaux alors qu'ils étaient déjà au musée. Il y a quelques histoires célèbres comme ça, de gardien de musée qui voit un monsieur en train de barbouiller un tableau et qui lui dit « mais enfin monsieur, c'est interdit ». Et le monsieur dit « mais je suis le peintre et je ne l'avais jamais terminé ». Mais la possibilité de transformer des images pour le grand public, c'est quand même l'apparition des outils numériques que l'on connaît, des jeux vidéo. On choisit à tout moment son chemin, ses actions et son point de vue, puisqu'on peut à tout moment dans un jeu vidéo être immergé en première place, on peut voir ses mains devant l'écran, ou alors être en vision good game, en vision de Dieu, être en position supérieure, on voit les choses d'en haut. Et donc, troisième élément, après l'immersion, après la transformation, la quête d'un sens partagé. Vous avez ici, sur une moitié de l'image, le kinétoscope de Thomas Edison. Vous voyez que chaque client était invité à mettre quelques sous dans une machine pour regarder un film. Ça n'a eu aucun succès. Quel est le coup de génie des frères Lumière? C'est qu'ils ont utilisé exactement les mêmes films, mais ils ont eu l'idée de les projeter dans des salles devant un public rassemblé. Et le fait que le public soit rassemblé, que le public puisse rire en même temps, pleurer en même temps, trembler en même temps, fait que le cinéma a eu le succès que vous savez. Parce que dans une salle de cinéma, ce qui est agréable, c'est de sentir qu'on partage les mêmes émotions et donc que probablement on a la même compréhension des images qu'on voit que ses voisins. Et quand tout d'un coup, tout le monde rit et que soi-même on a envie de pleurer, c'est là que ça devient terriblement difficile à vivre. On est dans la situation du spectateur de kinétoscope de Thomas Edison, c'est-à-dire de ne pas pouvoir partager avec d'autres le sens qu'on donne aux images qu'on voit. Alors, toute l'histoire des technologies, bon, je l'ai résumé là, mais bon, je ne vais pas vous faire le détail, mais donc on passe progressivement, vous voyez, d'une immersion spatiale, visuelle et émotionnelle partagée, qui était déjà le cas de la peinture, progressivement jusqu'à ce qui existe aujourd'hui avec les casques de réalité virtuelle, une immersion qui est proprioceptive complète, hein, pas seulement extéroceptive. Alors, j'avoue que j'ai eu un petit peu de difficulté à accepter que la réalité virtuelle concerne aussi les écrans. Pour moi, c'était vraiment le casque, et c'est lorsque j'ai compris la distinction entre réalité virtuelle extéroceptive et proprioceptive, hein, que j'ai compris qu'en effet, on pouvait parler de réalité virtuelle pour les écrans. Donc la réalité virtuelle est une technologie à la fois en continuité et en rupture avec les technologies d'image précédentes. En continuité, puisqu'il y a immersion, transformation, quête d'un sens partagé. Donc de ce point de vue-là, rien de nouveau sous le soleil depuis la plus haute antiquité, même bien avant. Mais en même temps, la réalité virtuelle est en rupture, puisque pour la première fois, l'être humain a la possibilité de toucher, sentir, manipuler des objets comme s'ils étaient bien réels. Je passe là-dessus, puisqu'on vous en parlait, l'illusion de la main en caoutchouc, la possibilité de créer des sensations par la vision, voilà. Alors, juste une petite anecdote, la patiente au jacuzzi sur Second Life, j'ai raconté ça dans un bouquin il y a une dizaine d'années, c'est sur Second Life, une dame qui me disait sentir les bulles sur elle quand elle mettait son avatar dans un jacuzzi. Et en fait, il faut bien comprendre qu'elle avait une grande expérience du jacuzzi. Donc ça veut dire que vous n'éprouvez dans la réalité virtuelle vous ne pouvez éprouver dans la réalité virtuelle ce qu'éprouve votre avatar, à mon avis, que si vous l'avez déjà éprouvé dans la réalité. C'est-à-dire vous ne pouvez pas éprouver à la place de votre avatar quelque chose que votre avatar éprouverait pour la première fois. Mais il faut que vous l'ayez éprouvé pour que vous puissiez projeter sur votre avatar vos propres éprouvés et les éprouver comme votre avatar. Alors, quelles conséquences sur la vie mentale et sociale? La réalité virtuelle modifie les outils qui permettent d'agir sur le réel. Ça, l'industrie est très preneuse aujourd'hui de réalité virtuelle pour concevoir des prototypes dans tous les domaines. La réalité virtuelle modifie la représentation du réel. Et vous savez peut-être que chaque année, il y a l'élection du mot de l'année et qu'il semble bien que le mot de l'année, cette année, pourrait être « figital ». Figital, ça veut dire, vous savez, c'est acronyme dont le, enfin pas un acronyme, c'est mot composé dont les geeks adorent, que les geeks adorent. Figital, c'est à la fois physique et digital. Vous pouvez à la fois vous promener dans la galerie des glaces avec un casque de réalité virtuelle, être dans la galerie des glaces, dans le virtuel, et vous pouvez passer de l'un à l'autre. Et évidemment, comme tout l'ensemble de la réalité virtuelle et numérique, eh bien le réel devient mesurable, partageable, exploitable. La réalité virtuelle modifie la relation de chacun avec lui-même, donc j'insisterai pas, là c'est des images d'un jeu vidéo que vous connaissez tous, hein, c'est World of Warcraft, qui a été le premier jeu vidéo à ma connaissance à offrir un tel éventail de possibilités identificatoires aux joueurs. Vous savez que selon l'avatar que le joueur se fabriquait, un bon psychologue pouvait pratiquement y trouver l'équivalent du matériel du Rorschach. On pouvait savoir comment quelqu'un percevait le monde et se percevait lui-même à partir de l'avatar qu'il s'était choisi et des pouvoirs qu'il lui avait donnés. Et du coup, chacun peut vivre à la fois dans son existence physique et dans son existence numérique. Vous avez un film très bien là-dessus de Spielberg, Real Playing Game. Ready Player One. Voilà, je vais Ready Player One. Voilà. Et la réalité virtuelle modifie les relations aux autres, évidemment. Alors ça, c'est quelque chose qui a été évoqué, mais si vous en avez la possibilité, c'est bien que vous en fassiez l'expérience. Vous avez Carnegie Arena est assez compliqué à gérer. Il est rare qu'on puisse l'expérimenter parce que vous êtes invité non seulement à avoir un casque de réalité virtuelle, mais aussi à marcher sur du sable dans un long trajet. Et c'est l'idée que de permettre aux gens dans cette situation de vivre ce que vivent des immigrés mexicains qui essayent de passer la frontière américaine. En revanche, vous avez un dispositif qui voyage beaucoup, qui s'appelle The Enemy, qui vous permet de parler avec, dans quatre situations différentes, dans quatre situations de conflit dans le monde, avec un combattant d'un camp et un combattant de l'autre camp, et de leur parler comme si vous étiez un journaliste en train de les interviewer dans une grande proximité, évidemment émotionnelle. La réalité virtuelle accroît le risque de fuite du monde, hein, il faut quand même l'évoquer, et c'est l'ensemble des... Là, c'est Second Life, hein, ensuite c'est Facebook, repensé à la lumière de la réalité virtuelle, et en bas, un jeu vidéo. Oui, j'aurais fini avant. Voilà. Alors, quelles utilisations en santé mentale? Beaucoup de choses, là encore, vous ont été dites, donc je vais simplement les lister. Le traitement des phobies, évidemment. Et il y en a beaucoup, hein, voilà, phobie de rougir, des araignées, phobie des espaces, peur de voler, de parler en public, peur de conduire. Et l'idée, ben, ça vous a été largement développé par Noël Scherrer, hein, c'est l'idée que ben, on va économiser beaucoup de temps et beaucoup de complications et beaucoup de fatigue en utilisant la réalité virtuelle par rapport au premier protocole de thérapie comportementale que j'ai expérimenté dans les années 1980, qui consistait à prendre les patients sous le bras presque et les obliger à aller à l'aéroport d'Orly pour voir s'envoler des avions, faire quelques pas sur l'échelle qui permettait de monter dans la carlingue. Donc tout ça était évidemment extrêmement lourd à mettre en pratique. Et grâce à la réalité virtuelle, évidemment, tout ça est beaucoup plus facile à gérer. Et comme vous le voyez écrit, hein, il a été montré que cette immersion progressive est beaucoup moins violente, mais en même temps, elle est aussi efficace. Elle peut être beaucoup plus fractionnée, beaucoup plus contrôlée. Traitement des troubles de l'image corporelle, troubles alimentaires. Là, je crois que c'est Evelyne qui avait fait cette association de quatre images. J'ai dû récupérer ça quelque part dans un livre que tu avais fait. Voilà. Et puis, remédiation cognitive, elle nous en a parlé très longuement. Alors, je voudrais aussi parler de la réduction des syndromes douloureux chroniques, hein, parce que vous savez que l'utilisation des jeux vidéo, déjà, permet à des enfants qui ont des maladies très douloureuses de mieux supporter ces maladies et aussi, éventuellement, de mieux supporter les traitements hein, qui leur sont faits quand les traitements sont, eux aussi, très douloureux. Et il y a l'idée, maintenant, de permettre de franchir un pas de plus grâce à la réalité virtuelle, non seulement leur proposer un espace de jeux vidéo, qui est donc un espace sans fin quand ils se mettent dessus, mais leur proposer des espaces de réalité virtuelle à durée limitée, dans lesquels ils sont invités à s'échapper du monde dans lequel ils se trouvent, le temps qui leur est nécessaire hein, pour oublier leurs souffrances ou leurs difficultés. Ils y reviennent de toute façon bien assez vite. Et là, vous avez un projet qui a été présenté par un organisme qui s'appelle le Rire Médecin, qui aujourd'hui consiste à faire intervenir des clowns bien physiques dans les chambres d'enfants ayant des pathologies graves, lourdes, de manière à les distraire pendant 5-10 minutes de leur souffrance ou de leur solitude. Et donc, comme les clowns du Rire Médecin sont trop peu nombreux, ils ont imaginé des espaces de réalité virtuelle qui puissent prendre parfois le relais pour certains enfants en grande souffrance. Il y a quelque chose qui ne vous a pas été évoqué, c'est les prises en charge des syndromes post-traumatiques. Et c'est quelque chose qui est beaucoup développé aux États-Unis. Je ne sais pas trop pour ce qu'il en est de la France actuellement. Et vous voyez qu'il y a même l'utilisation d'un sim coach. Alors pourquoi? Parce que un grand nombre de syndromes post-traumatiques des soldats américains semblent liés non pas à des situations dans lesquelles ils auraient été été eux-mêmes ou des situations dans lesquelles leurs collègues de combat auraient été eux-mêmes victimes d'agressions, d'explosions, de blessures. Mais il semblerait qu'un grand nombre de stress post-traumatique résulte de situations dans lesquelles les soldats américains auraient été des agresseurs, mais des agresseurs ensuite honteux ou coupables d'avoir tué des innocents. Et donc, du coup, cette situation extrêmement complexe pour eux, puisqu'ils sont finalement ravagés par la honte hein, de choses qui ne correspondent pas à leur éthique personnelle ou militaire, cette situation très complexe pour eux semblerait pouvoir être dénouée plus facilement par un coach, par un sim coach, c'est-à-dire par une figure sur un écran, dans la mesure où ils peuvent à cette figure raconter tout ce qu'ils veulent sans que cette figure ne s'en émeuve jamais. Et vous savez que c'est le grand problème de la psychothérapie lorsqu'on a affaire à des patients qui ont vécu des situations extrêmes, c'est qu'à certains moments, inévitablement, ce qu'ils racontent provoque un haussement de sourcils ou une mimique d'inquiétude ou voire même une mimique de honte pour ce qu'ils racontaient. Et évidemment, ce lever de sourcils, cette mimique de gêne de la part du thérapeute fait toujours courir le risque de bloquer le patient dans ce qu'il est en train de dire, parce qu'il a l'impression qu'il a excédé les bornes de l'humain. Donc l'idée d'utiliser un personnage virtuel pour favoriser les confidences chez des personnes ayant vécu comme acteur situations dans lesquelles elles se sont trouvées victimes de stress post-traumatique à la suite d'actions qu'elles ont accomplies elles-mêmes. Alors oui, alors mais faut-il s'en inquiéter ? Non, alors je vous dis ça parce que, oui, j'ai quasiment fini, parce que, vous savez, dès qu'il y a une nouvelle technologie d'image, il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais il faut bien comprendre que l'homme a toujours développé des stratégies pour y entrer et en sortir à volonté. C'est ça, finalement, la seule chose dont il faut s'inquiéter, ça serait qu'un jour, on puisse nous imposer de la réalité virtuelle sans nous permettre de savoir si c'est de la réalité virtuelle ou pas. D'une certaine manière, ça existe déjà. Il suffit de regarder le journal télévisé. On ne sait jamais si ce qu'on vous raconte, c'est la réalité. Réalité ou pas. Ce qui crée d'ailleurs aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes. Quand on joue à un jeu vidéo, on sait que ce n'est pas la réalité. Quand on regarde le JT, ou quand on regarde certains reportages de journalistes, même quand on lit son journal, on ne sait jamais trop. Mais donc, à partir du moment où on a la possibilité d'entrer et de sortir à volonté, ma foi, c'est la stratégie qu'a toujours utilisée l'être humain. Vous savez, c'est déjà la stratégie du trompe-l'œil. Pas oublier que le trompe-l'œil a angoissé déjà des générations. Hein. Mais le trompe-l'œil, l'idée, c'est qu'on fait un pas de côté et on dit « Ah oui, tiens, mais c'est vrai, je me trompe, voilà ». La réalité, le 3D, etc. Même chose. Alors donc, les nouvelles générations ont plus de distance pour se désolidariser de leurs expériences que de leurs avatars, que les sujets les plus âgés. Voilà, ça c'est également important. Il faut bien comprendre que la pratique d'une technologie nouvelle prépare à aborder la technologie suivante dans les meilleures conditions. Ceux qui ont joué aux jeux vidéo sont certainement beaucoup mieux préparés à vivre la réalité virtuelle avec un casque sur le nez. Et puis ceux qui ont joué à des laser games sont beaucoup plus préparés à faire des parties de réalité virtuelle sur un grand espace vide, mais chacun avec son casque de réalité virtuelle sur le nez voit des cloisons qui n'existent que pour lui et ses camarades combattants. Et puis bien sûr la nécessité d'un cadre éthique, donc auquel un certain nombre de gens réfléchissent. Voilà. Alors bien sûr, toujours revenir à la question des valeurs, hein, voilà, soit devenir plus puissant, plus compétitif, plus conquérant, soit permettre de mieux nous connaître nous-mêmes. Et ça, la réalité virtuelle peut vraiment être utilisée dans ces trois domaines, mieux nous connaître nous-mêmes, mieux connaître les autres, hein, et puis mieux nous engager dans des tâches collaboratives. Voilà, merci de votre attention.
Merci. Merci pour cette synthèse. Nous allons pouvoir prendre des questions. Y a-t-il des questions ?
J'ai une question.
Oui. J'ai une question aussi. Alors, je sais pas si
elle est. Je vais faire son micro. Je t'en prie. Comment s'adresse à vous, Serge ? Est-ce que vous pensez qu'on peut s'acheminer vers la fabrication de rêves de synthèse et les injecter à la source pendant notre sommeil ?
Vous savez, il y a un truc que j'aime toujours répéter, vous l'avez dû l'entendre, c'est que on ne peut être sûr que d'une chose pour l'avenir, c'est que ceux qui essayent de le prédire aujourd'hui seront ridicules demain. Donc je ne peux rien vous répondre d'autre. Alors ce qui est certain, c'est que dans la logique de ce que je vous ai dit, j'ai évoqué ce matin le film de Wim Wenders Jusqu'au bout du monde, il est certain que nous aurions grand bonheur à pouvoir vivre physiquement dans nos rêves. C'est-à-dire de pouvoir rentrer dans nos pensées, c'est-à-dire je rêve que je vais séduire je ne sais quelle créature merveilleuse, voilà, et qui m'est inaccessible, mais je rêve éveillé, comment je pourrais peut-être m'en approcher et tout, mais je sais que je perds mon temps avec ces rêveries, parce que c'est inaccessible. On peut imaginer qu'un jour, ces rêveries, elles puissent être traduites en réalité virtuelle, et que je puisse rentrer dedans comme si je vivais pour de vrai. Mais à ce moment-là, vous voyez, on rentre dans le deuxième alinéa de mon titre, c'est pas pour transformer le monde, c'est pour vivre en parallèle au monde.
Olivier ?
Là, j'avais une question, je peux le faire aussi comme ça sans micro. Pierre, j'avais une question surtout pour...
C'est pour les gens du fond peut-être.
Ah, merci. J'avais une question pour tout le monde en fait, du coup.
Je pense que ça marche pas.
En fait, c'est la même question, c'est juste, on sait qu'aujourd'hui on peut être, on peut s'immerger dans... n'importe quelle œuvre, donc comme vous l'avez dit, hein, cinéma, livre aussi et tout ça. Mais il y a quelque chose aussi qui joue dans l'image, c'est aussi la qualité, on va dire, de l'image. Et on va pas le nier, aujourd'hui, tout ce qui touche à la réalité virtuelle, c'est pas très beau au niveau du réalisme. Est-ce que vous pensez, au niveau de tout ce qui est rééducation cognitive, au niveau de ce qui est thérapie TCC et autres, en fait, qu'il y aura un impact différent lorsque on aura des images qui seront tellement réalistes qu'on aura l'impression vraiment qu'on est dans du réel, en fait.
Je peux apporter un premier élément de réponse. Ce sont des sujets qui ont été étudiés. Jusqu'où faut-il aller dans le réalisme ? Et le Scan Valley qui a été évoqué ce matin, elle existe aussi dans le monde de la réalité virtuelle. En ce qui concerne la représentation des univers, il y a une expérience qui s'appelle le Pit Room. Et c'est une expérience virtuelle dans laquelle vous marchez autour d'un trou, hein, vous portez un casque, vous marchez autour d'un trou, et vous devez jeter des objets dans un salon qui se trouve au fond du trou. Et ils ont fait l'expérience un lieu extrêmement réaliste, bien dessiné, etc. Et ils ont dégradé, jusqu'à la structure en fil de fer qui est à la base de tout environnement virtuel. Eh bien, l'effet était le même. Parce qu'en fait, ce qui était important, c'était l'effet de profondeur. Ce n'était pas autre chose. Donc à partir du moment où l'effet de profondeur était rendu, c'était suffisant. Et en psychothérapie, bon, pour certaines choses, par exemple dans l'arachnophobie, vous n'avez pas besoin de modéliser correctement l'environnement. Hein.
Oui, pour aller un peu dans le même sens, du point de vue de quelqu'un qui est très anxieux, c'est ce que Evelyne a dit, le déclenchement de l'amygdale, c'est suffisant pour déclencher l'émotion. Ce qui se passe au niveau pratique quotidien, c'est quand on a affaire à des gamers. Eux, ils peuvent shifter, comme on dit en franglais, d'un état à un autre. Ils disent « Ah, ça ne me fait rien du tout, c'est pas aussi beau que mes jeux vidéo. » Donc, il sort de l'émotion et c'est un évitement cognitif, comme on dit dans notre jargon. Et puis après, il y a des gens très doués qui disent « Bon, ok, ça va, je ne joue plus à ça. Ah, maintenant, ça me fait peur. » Et c'est vraiment intéressant de constater ça. Maintenant, je pense que c'est la démarche des académiques de faire des recherches là-dessus.
Voilà. Oui. Tous les intervenants ont insisté sur le fait que dans la réalité virtuelle, il y avait de l'immersion et de l'interaction. Je pense qu'il faut bien comprendre que ces deux caractéristiques sont extrêmement liées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une qualité d'image très mauvaise, ça déroute votre immersion. Mais si vous pouvez interagir de manière extrêmement riche, vous activez l'immersion de façon très intense. Et inversement, si vous avez une très belle image et que vous interagissez peu, mais elle est tellement belle, cette image, que vous avez le désir d'être à l'intérieur et l'immersion fonctionne. Donc ce qu'il faut toujours penser, c'est l'articulation de l'immersion et de l'interaction. Et également du sens que vous pouvez y donner, parce que si ça n'a pas de sens pour vous, si ça vous déroute complètement, ben l'immersion sera bien moindre aussi, évidemment. Alors que si ça fait sens pour vous, vous aurez un désir d'y entrer beaucoup plus grand, parce que vous y trouverez une résonance avec vos préoccupations personnelles. Donc en fait, c'est ces trois caractères qu'il faut prendre en même temps. Immersion, transformation et quête du sens.
On va bientôt s'arrêter. Vous vouliez faire une intervention, vous aviez...
Non, en fait, pour continuer sur la question du réalisme, il y a le réalisme de la situation. Il n'y a pas que le réalisme visuel, il y a le réalisme psychologique, il y a le réalisme de la situation. Le réalisme, c'est compliqué en réalité virtuelle. Et par ailleurs, dans un univers virtuel, donc il y a l'interaction, mais vous avez aussi la navigation. Et si vous êtes malade à cause de la navigation qui est trop rapide, hein, même que l'univers soit beau ou pas beau, vous serez malade, donc vous arrêterez. Hein, donc c'est toute une composante, tout un ensemble de composantes qu'il faut bien gérer de façon à ce que ce soit adapté, toléré. Et c'est pour ça que ces questions sur... au début, quand on travaille sur une nouvelle application, il faut absolument aller examiner ces questions de cyber sickness, de tolérance, indépendamment de l'objectif clinique qui est visé.
Merci beaucoup. Je pense que nous allons nous arrêter ici. Il y a une petite pause de prévu. Comment ? Un quart d'heure de pause et il est possible quand même de continuer cette discussion. Merci beaucoup. Merci.